France Inter, Interclasse.
Avoir une poitrine imposante, avoir une taille très fine, avoir des hanches très fines, être jeune pour toujours, ça n'existe pas ça. Il faut que les gens le comprennent. On ne peut pas avoir ce corps-là, à part si c'est pour débourser des millions d'euros pour avoir du plastique dans le corps.
France Inter, Interclasse, Collège Pierre de Jeter à Saint-Denis.
Prends la ligne D du RER et erre dans les rues sévères d'une ville pleine de caractère.
Marché de Saint-Denis.
Si t'aimes voyager, prends le tramway et va au marché. En une heure, tu traverseras Alger et Tanger. Tu verras des Yougos et des Roms, et puis je t'emmènerai à Lisbonne. Et à deux pas de New Delhi et de Karachi, t'as vu, j'ai révisé ma géographie, je t'emmènerai bouffer du mafé à Bamako et à Yamoussoukro. Et en repassant par Tizi Ouzou, on finira aux Antilles, là où il y a des grosses renois qui font « Toi aussi, là, quand au café là, ma fille ?» Après le marché, on ira chez Mar, rue de la République, le sanctuaire des magasins pas chers, la rue préférée des petites rebeux bien sapées aux petits talons et aux cheveux blonds peroxydés. Les après-midi de galère, tu connaîtras l'errance. Si on va à la poste, je t'enseignerai la patience. La rue de la République mène à la basilique où sont enterrés tous les rois de France, tu dois le savoir. Après géographie, petite leçon d'histoire. Le soir, y a pas grand-chose à faire, y a pas grand-chose d'ouvert, à part le cinéma du stade où les mecs viennent en bande. Bienvenue à Kaira Land. Ceux qui sont là rêvent de dire un jour je pèse et connaissent mieux Kulchen sous le nom de Bruno Lopez. C'est pas une ville toute rose, mais c'est une ville vivante. Il se passe toujours quelque chose, pour moi elle est kiffante. Saint-Denis Centre, mon village. J'ai 93-200 raisons de te faire connaître cette agglomération. À cette putain de cité, je suis plus qu'attaché, même si j'ai envie de mettre des taquets aux arracheurs portables de la place du caquet. Saint-Denis ville sans égale. Saint-Denis ma capitale. Saint-Denis ville peu banale. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue nord de Paname qu'on appelle Saint-Denis.
Aujourd'hui, Interclasse est à Saint-Denis, au collège Pierre de Jeter. Cet attachement à cette ville de Saint-Denis, ce long travelling dans les rues, c'est votre trait commun entre grand corps malade qu'on vient d'entendre et vous, les 3e C. Est-ce que vous êtes reconnu dans ce slam de grand corps malade? Est-ce que ça représente votre ville de Saint-Denis?
Le slam de grand corps malade, il ressemble bien à Saint-Denis.
Saint-Denis, c'est pas une très grande ville. Il y a tout ce qu'il faut.
On trouve des gens de toute origine culturelle et sociale?
Il y a beaucoup de diversité, comparé à d'autres villes en France où il y en a très peu.
Alors donnez-moi les noms des pays, les gens ils viennent d'où quand on est à Saint-Denis?
Ah, de partout. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne retrouve pas forcément beaucoup de racisme. Les gens disent souvent c'est une ville sauvage, entre parenthèses, c'est une ville de banlieusards, une ville de jeunes qui respectent pas grand-chose. Mais pas du tout, Saint-Denis c'est vraiment une ville, moi je trouve Saint-Denis super comme ville.
T'es obligé de défendre ta ville quand tu sors de Saint-Denis?
Ah mais il n'y a pas tout qui est parfait à Saint-Denis, bien sûr, comme dans toutes les villes, il y a des agressions. Mais c'est beaucoup trop envenimé. Si les personnes se rendent vraiment à Saint-Denis et visitent même une journée, elles vont se rendre compte que c'est pas du tout ce qui est dit dans les informations.
Quand je vais voir des amis, parfois il y a d'autres de leurs amis, et je vois bien que quand elles parlent de Saint-Denis, ils font... genre pour eux, Saint-Denis, c'est des caïras ou c'est que de la violence, alors qu'en fait, si on passe ne serait-ce qu'une heure ou deux heures à Saint-Denis, c'est pas plus violent qu'ailleurs, en fait.
Laure Adler, vous êtes venue au collège Pierre de Jeter et pour la première fois dans l'histoire d'Interclasse, parce que d'habitude ce sont les élèves qui interrogent les gens, et là donc pour la première fois, c'est vous qui avez posé des questions aux élèves.
Mais ce qui m'intéressait, c'était de les entendre et de savoir ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur de leur tête, pas seulement leur cerveau, mais leur corps, leurs affects. Et je pensais que, étant donné mon âge, il y avait quelque chose d'un processus de transmission et d'un processus pédagogique qui allait peut-être s'inverser. C'est-à-dire qu'ils allaient peut-être me confier à moi des choses qu'ils n'auraient pas pu confier ou qu'ils ne peuvent pas confier ni à leurs enseignants, ni même à leurs propres meilleurs amis, ni même à leurs propres parents. Je pense que là, j'ai délibérément... pas consciemment, je m'en rends compte en vous parlant, j'ai délibérément utilisé mon âge en me disant peut-être que ça va m'attirer des confidences et des sorties de soi. C'est pas évident, c'est pas du tout évident. Moi j'arrivais avec des questions qui étaient pas évidentes.
Et vous avez choisi un thème important, essentiel, qui est celui du bonheur.
Parce que c'est une question qui n'est pas posée généralement, qu'on ne se pose pas à soi-même et qu'on pose encore moins aux jeunes générations. C'est une question, pour vous dire toute la vérité, qui m'est venue de la revisitation d'un film que j'avais vu, qui avait été fait par Jean Rouch, juste après la guerre, et où il avait demandé à une de ses reporters, qui s'appelait Marceline Loridan, bien connue de nos auditrices et de nos auditeurs, de poser des questions avec un micro à la main sur la place de la Concorde. La seule question, c'était « Êtes-vous heureux ?» Et donc, moi, c'est une question qui m'intéresse.
On va donc écouter Le Bonheur avec Laure Adler et les élèves.
Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux? Je me dis, qu'est-ce que ça peut vous foutre? S'il vous plaît, monsieur, êtes-vous heureux? N'ayez pas peur, on ne va pas vous faire de mal.
Le bonheur, ça, d'après mes souvenirs, de quand j'étais heureux, c'était plus avec mes proches.
Mais pourquoi vous en parlez à l'imparfait? Parce que c'était avant le bonheur, c'est pas maintenant?
Si, j'ai des coups de bonheur, mais j'en ai plus eu avant que maintenant.
Quand vous étiez enfant?
Ouais. Enfin, là, je suis heureux et pas heureux à la fois.
Alors, vous pouvez essayer d'expliquer?
Enfin, c'est quelque chose qu'on ressent, donc c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer.
On peut le dire avec certains mots. Par exemple, le matin, quand vous vous réveillez, vous vous sentez heureux de vivre, heureux de vous réveiller, heureux d'être dans le monde.
Enfin, je remercie mon Dieu de me réveiller tous les jours comme ça. Parce qu'un jour, je sais bien que ça va s'arrêter.
Ah, vous pensez déjà à la mort?
Bah oui. Enfin, surtout quand on voit ce qui se passe en ce moment avec des jeunes, tout ça, qui sont tués. Par exemple, à Bondy, dernièrement, le jeune qui s'est fait tirer dessus, tout ça. Et celle qui s'est fait harceler, enfin, Alisha, là. Enfin, même on l'a jetée dans la Seine. Ça aussi. Peut-être qu'elle avait son bonheur, mais ça s'est vite terminé après. Donc, on ne peut pas savoir le futur, quoi.
Comment vous avez vécu ce drame d'Alisha? Et comment vous avez compris que des jeunes de votre âge aient pu commettre cet odieux assassinat?
Peut-être qu'ils vont regretter leurs erreurs. Enfin, sur le coup, peut-être ils n'ont pas réfléchi. Parce qu'ils ont fait quand même un meurtre, quoi. Je pense que ça va rester gravé en eux jusqu'à la fin de leur jour.
Vous en parlez beaucoup entre vous de ces horribles histoires qui se passent et qui se multiplient, là, ces temps-ci?
Avec mes parents, ouais, quand même. Parce qu'ils se font du souci pour moi, de ce qui se passe. Ils se demandent si ça m'arrive.
Et vous, alors, quelle définition vous donneriez du bonheur?
Bah, personnellement, je n'ai pas réellement de définition du bonheur. On n'est pas tout le temps heureux de ce qui se passe, ou de ce qu'on vit, ou de ce qu'on a comme ce qui se passe autour de nous. Personnellement, actuellement, je ne ressens pas réellement de grand bonheur.
Pourquoi cet état de mélancolie, selon vous?
Je ne me sens pas vraiment au top de ma forme. Bah, même si on essaie toujours d'aller bien, on a tous des coups de mou qui font qu'on n'est pas bien. Qu'on se sent pas bien et qu'on n'arrive pas à l'expliquer parce que parfois c'est inexplicable et qu'on ne sait pas réellement quoi dire ou quoi faire.
C'est dur d'être une ado aujourd'hui?
Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, c'est vraiment très dur de l'être. Quoique avant, c'était pas non plus très facile de l'être, mais aujourd'hui, avec le Covid et tout ce qui se passe comme les agressions, ce qui s'est passé avec la jeune fille. C'est clairement pas facile.
Ça a retenti à l'intérieur de vous, l'histoire d'Alisha?
Oui, parce qu'au final, ce n'était qu'une ado. Et
ça veut dire quoi, ce n'était qu'une ado? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous n'êtes pas moins que le reste de la population?
Non. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus que ça m'a affecté quand même, sur le sens que tout peut arriver. On n'est jamais à l'abri de quelque chose.
Mais c'est plus dur d'être une fille ado que d'un garçon ado.
Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr.
Ils sourient, les garçons, mais enfin, ils ne protestent pas. Et pourquoi, c'est sûr?
Parce que être une fille, déjà tout court, c'est difficile. Plus qu'être qu'un garçon. Je dis pas que les garçons, il n'y a rien qui se passe avec eux, mais on aura plus la possibilité de se faire agresser ou accoster, ou même de se faire violer ou autre, que eux auront la possibilité de se faire.
Trouver son identité, se situer quand on est une fille ou un garçon, ce sont des questions qu'on a abordées ensemble cette année. Leïla, Reda, Sarah, Camila, Abdoulaye, vous m'avez dit la première fois qu'on a travaillé ensemble que 14 ans, c'était un âge difficile pour vous. Pourquoi ?
On a peur pour le lycée parce qu'on ne sait toujours pas comment ça se passait. Et moi, personnellement, je ne sais toujours pas qu'est-ce que je vais faire. Beaucoup de personnes nous mettent la pression. Par exemple, les professeurs qui veulent vraiment que vous soyez assez tôt. Et dans ma famille aussi, on met assez la pression pour que je choisisse un bon métier pour l'avenir.
Ça aussi, j'ai eu l'impression, quand on s'est rencontrés la première fois, que vous aviez une sorte de pression sur les épaules. Il fallait déterminer son identité tout de suite.
Bah après le lycée, il y a la fac et ensuite, bah on est des adultes et c'est pas... Ça fait un peu peur.
Est-ce que vous avez peur d'être adulte, de devenir adulte ?
Moi, oui, parce que pour l'instant, j'aime bien ma vie en tant qu'enfant adolescente.
Abdoulaye, c'est quoi un adulte pour toi ?
C'est quelqu'un qui est livré à lui-même.
Parce que vous avez choisi, vous, de rencontrer dans votre groupe quelqu'un qui, lui, a dû se déterminer quand il avait 14 ans. Et il en a 25 ans aujourd'hui, il s'appelle Sami Nouri. Reda, tu nous le présentes ?
Un immigré afghan, devenu couturier.
Désormais, il vit à Paris, dans le 16e arrondissement, et c'est là que vous l'avez rencontré. Mais là ?
Bonjour, Sami, merci de nous accueillir, tout d'abord.
Avec plaisir.
Est-ce que tu pourrais te présenter ?
Moi, c'est Sami, j'ai 25 ans, je suis arrivé en France il y a 10-11 ans. J'ai fait la couture depuis que je suis petit, j'ai créé une marque de vêtements haute couture prête à porter depuis 3 ans.
Tu es né en Afghanistan ?
Exactement. Je suis parti en Iran avec ma famille pour vivre. Après quelques années en Iran, on en a décidé de venir en Turquie. Et de Turquie, j'ai perdu ma famille, je suis arrivé en France tout seul. Et après 1 an et demi, 2 ans, j'ai retrouvé ma mère et ma sœur et j'ai plus de nouvelles de mon père depuis ce temps-là.
Et comment vous avez appris le français ?
C'était dur. J'étais au collège dans une classe spéciale juste pour apprendre la langue. Et après, petit à petit, j'ai essayé de faire des stages dans la vente, dans différents métiers, juste pour apprendre de communiquer avec des gens pour que je puisse réussir dans ma vie.
Et qu'est-ce qui vous a permis de réussir dans la mode ?
Travailler quand j'étais petit avec mon père, parce que lui, il était couturier, il m'a appris à comment travailler, etc. Et arriver en France. En fait, les parcours étaient difficiles parce que j'étais dans une école de mode, dans un lycée. Toutes les élèves, ils pensaient négatif en me disant qu'on ne pourra jamais percer. J'ai essayé d'envoyer des CV, de motivation et tout. Je n'ai pas abandonné. J'ai réussi à décrocher des stages chez des grandes marques comme Jean Galliano, comme Jean-Paul Gaultier. Ça m'a donné envie de créer une marque, etc.
Quelle était votre réaction lorsque vous avez envoyé 69 CV et 0 réponse ?
J'ai eu une seule réponse positive, c'était chez Jean Galliano. Même ça, je ne connaissais pas, je ne savais pas qui c'est. J'ai demandé à mes profs, est-ce que c'est une entreprise connue, grande ? Et tout le monde était mort de rire. Ils me disaient, bah, si, c'est une très très grande entreprise et tout. J'étais content.
Avez-vous eu des doutes ?
On a toujours des doutes, mais il ne faut pas les compter. Il faut penser positif et avancer.
Le sujet, c'était les inquiétudes qu'on a quand on a 14 ans. Et vous, c'était quoi votre inquiétude du coup à 14 ans ?
De retrouver ma famille, comment je peux réussir à parler la langue. J'ai essayé de prendre sur moi et écouter les autres parce qu'ils m'ont donné des conseils, les éducateurs, les éducatrices. Et même si vous avez 14 ans, il faut que vous pensiez positif et que tout est possible. Genre, c'est pas parce que j'ai pas l'argent que je pourrais pas réussir. Moi, quand je suis arrivé, j'avais que 20 euros dans la poche et j'avais pas mes parents pour mon soutien. Au début, j'étais très timide, mais il faut pas être timide, il faut y aller vers les gens. Aujourd'hui, je me sens plus français qu'afghan parce que voilà, j'ai réussi ici. Pour moi, je suis né une deuxième fois dans un autre pays.
Super, merci beaucoup.
Merci, merci à vous et merci. Prenez soin de vous. Et...
merci beaucoup.
Peut-être à une prochaine fois.
Comment espérer un paradis quand tu reviens des enfers? Les mensonges créent des légendes, mais pas des hommes légendaires. J'ai comblé le manque par l'excès, abusé du bon comme du mauvais. Non, le monde n'est pas injuste, il est juste comme on l'a fait. Tu sais, le succès ça isole, mes rêves d'enfant dans ma camisole. Tu peux aligner des mots sans rien dire de toi. On se voit tous les jours, on se connaît pas. Ligués les uns contre les autres,
L'égoïsme en mode survie. Et si on veut que ça bouge, c'est pour les nôtres. C'est maintenant, il faut pas attendre ici. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. J'attends que tu me tends, 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 me tends la main. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. Et sans doute qu'il y a quelque chose en toi qui t'éloignerait des doutes et de Pôle emploi. Une envie, une passion, une découverte, une promesse, une rencontre, une phrase toute faite. On espère des jours meilleurs, de gagner au loto sans même y jouer. On se contente de financer l'amour en produits dérivés. Se mettre à prier sans même y croire, pendant qu'on consomme de belles histoires. Les enfants du monde nés pour s'aimer ont divisé la terre en territoires. Changer l'eau en vin, le plomb en or. Trouver des plans cul comme réconfort. Nos cœurs et nos esprits en désaccord. Alors on sort la nuit, on s'évapore. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. J'attends que tu me tends, 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 me tends la main. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. Dans nos cœurs il fait froid. Dans nos cœurs il fait froid. C'est pas un film qu'on vit, non. Arrête ton cinéma. Dans nos cœurs il fait froid. Je pense à ces débrouillards. Larami, Mouchine, Adama, Ange du Binécha. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. J'attends que tu me tends, 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 me tends la main. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. J'attends que tu me tends, 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 me tends la main. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien.
Vous écoutez France Inter, Interclasse à Saint-Denis, c'était Giorgio Danse. On retrouve les élèves du collège Pierre de Jeter interrogés par Laura Adler sur le bonheur.
Pour moi, le bonheur, c'est quelque chose qu'on ressent quand on se sent bien.
Et là, vous allez bien ?
Moi, j'ai un petit peu de bonheur dans ma vie, mais en même temps, pas trop.
Quels sont les malheurs ?
Ça va bientôt faire un an et demi que j'ai perdu ma mère.
Comment ?
D'un cancer. Et je vis plus qu'avec mon père. On croyait au début qu'elle avait la ménopause, mais après, finalement, on est allé chez le docteur et il nous a dit d'aller à l'hôpital. On y allait, ils ont fait des examens, ils ont découvert qu'elle avait un cancer et qu'elle était diabétique. Et au fil des mois, ça s'est enchaîné. Pendant un moment, elle allait bien, on a fêté son anniversaire, mon anniversaire. Et la semaine après son anniversaire, elle s'est laissée partir.
Ça veut dire quoi pour vous laisser partir ?
Bah, elle s'est laissée mourir après. Elle a décidé qu'elle voulait arrêter de souffrir.
Et vous avez compris sa décision ?
Oui, je l'ai compris. Au début, c'était dur parce que je me demandais pourquoi elle m'avait abandonnée.
Et maintenant ?
Et maintenant, je le comprends parce qu'elle souffrait, elle s'est battue et elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour moi. Et j'en remercie.
Et vous pensez souvent à votre maman ?
Beaucoup, parce que c'est bientôt son anniversaire.
Et vous allez faire quoi avec votre père le jour de l'anniversaire de votre mère ?
Rien.
Comment rien ?
On fait rien, on en parle un petit peu, mais on fait rien, quoi. On pense juste à elle.
Mais c'est déjà beaucoup de penser à elle et de parler d'elle.
C'est déjà beaucoup, mais ça fait un vide. C'est un peu compliqué parce que avec la famille, on se voit plus beaucoup. Il y a des distances avec tout ça.
Pourquoi ?
Bah, on se parle pas beaucoup, en fait. Ma mère était un peu le biais de la famille, sur qui on pouvait compter pour venir parler. Toute la famille était un peu reliée sur elle parce que c'était une âme charitable, comme tout le monde le disait, que c'était une bonne personne, qui a donné le sourire aux gens, et que c'était un peu la définition du bonheur. Pour moi, c'était mon exemple, et elle n'est plus là.
Qu'est-ce que vous voulez dire par âme charitable ?
Bah, elle était toujours prête à aider les autres, toujours prête à rendre service, peu importe si elle était malade ou qu'elle s'était fait mal, elle était toujours prête à aider. Et elle a fait de nombreux services, il y a beaucoup de gens qui la connaissaient à Saint-Denis. Et ça leur a fait un choc quand ils ont su qu'elle est partie. Il y avait mon père qui était là pour m'aider, mais il ne m'a pas accordé le soutien que j'avais besoin.
Pourquoi, à votre avis ?
Parce que j'étais tellement mal de ça qu'il l'a su un peu plus tard que je m'étais scarifiée, en fait.
Scarifiée ?
Oui, que je me coupais les bras un petit peu.
Là, vous avez un t-shirt avec des manches longues. Vous êtes scarifiée au poignet ?
Pas au poignet, mais au bras un petit peu.
Vous voulez me montrer ?
J'ai les anciennes cicatrices.
Oh là 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 !
de ça et puis notamment des tentatives de suicide que j'ai essayé de faire.
Combien ?
Deux. Et je me suis un petit peu réfugiée dans un univers qui m'a un peu permis de m'échapper de tout ça. C'est en rapport avec mon style déjà, comme vous pouvez le voir, j'ai un style un petit peu manga, qui est un univers qui m'a permis de m'échapper de tout ça, d'éviter d'avoir mal. Quand j'y pense, je me dis je suis plus moi-même, je suis une autre personne. Et quand je m'habille comme ça, j'essaye d'incarner un autre personnage.
Attention à cette volonté d'échapper à vous-même, hein, vous êtes vous. Avec votre regard, votre corps, votre courage, votre rapport au monde, cette force que vous avez manifestement et qui se voit. Hein. Donc, c'est pas la peine d'essayer d'échapper à vous-même parce que vous allez trouver d'autres que vous-même qui sont moins bien que vous.
Mais en quelque sorte, je préfère échapper à moi-même parce que j'ai préféré effacer celle que j'étais avant et essayer de recommencer celle que je suis maintenant. Mais comme je vous l'ai dit, je déteste la personne que je suis, vraiment. Je préfère incarner un personnage et me sentir mieux.
Vous êtes sûr que c'est pas une posture, ça ?
Non.
Donc vous êtes passé du très grand malheur à la possibilité du bonheur, en fait.
J'en suis encore un petit peu loin du bonheur. Hein. Mais bon,
ouais,
j'essaie de le trouver.
Comment on s'y recommence ?
J'essaye.
Laure Adler, on sent que vous ne vous attendiez pas à un tel témoignage.
Pas du tout, mais tout de suite j'ai compris qu'il y avait une grande souffrance, une grande détresse. Et ce qui était très impressionnant, c'est qu'elle a réussi à m'isoler de l'ensemble du groupe. C'est-à-dire que par sa parole, la sincérité, la frontalité de ce qu'elle disait, cette espèce de pacte qu'elle avait noué avec moi soudainement, nous avait isolés objectivement du reste de l'assemblée. Mais je crois qu'il y a eu une sorte de délivrance de la parole qui l'a peut-être elle-même surprise.
Pour faire face, elle nous l'explique, hein, Marine, elle a eu besoin de se réfugier, de se créer un personnage dans le monde des mangas. L'univers des mangas, c'est l'univers des jeunes de 14-15 ans qu'on a découvert. Vous nous avez dit, là, vous, les 3e C qui êtes en face de moi, que vous vouliez tout de suite rencontrer un éditeur, Mohamed, Rémi, Saïd, Aude, Aya, Olivier.
On s'est rendu dans les locaux de Pika Édition, qui édite des mangas japonais, qui les traduit en français.
Quels titres, pour ceux qui ne connaissent pas les éditions Pika, quels titres sont connus ?
Il y a Fairy Tail, Attaque des Titans, récemment Eden Zero.
Mohamed, toi qui lis beaucoup de mangas, est-ce que tu t'identifies à un personnage en particulier ?
M'identifier, non. Après, il y a des personnages que j'apprécie beaucoup.
Lesquels ?
Zoro.
Alors, je pense que ce n'est pas le même Zoro que la plupart d'entre nous.
Ce n'est pas le Zoro avec une cape noire, un masque et tout, c'est... C'est vraiment un personnage avec des cheveux verts, très musclé, avec trois sabres.
C'est un Zoro plus, en fait.
Exactement.
En quoi il te parle ?
Après sa première défaite dans la série, il s'est promis de plus jamais perdre. Et actuellement, dans la série, il n'a jamais perdu un seul combat. Et cette détermination, cette rage de vaincre, j'aime beaucoup.
On écoute votre reportage.
Bonjour les nains !
Coucou, c'est nous !
J'ai entendu dire que t'avais encore causé une sacrée pagaille à Argéon ! Espèce de brute !
Clarisse Langlais, chargée de communication, nous fait visiter. Pika propose aussi un catalogue de créations originales.
Donc le premier bureau, c'est le bureau des éditions H2T, qui est une maison d'édition qui fait partie de Pika depuis 2018. Elle a la particularité, cette maison d'édition, de ne produire que des mangas originaux. Donc ce sont des créations. Nous, par contre, chez Pika, on achète des licences qu'on publie, qu'on traduit.
Quatre éditrices gèrent ici les traductions, organisent le lettrage et livrent une version prête à éditer au fabricant Nicolas Ponce.
C'est vraiment toute une chaîne de petits métiers et on est tous du coup liés entre nous par des plannings. C'est-à-dire pour livrer à telle date, il faut que moi j'ai les fichiers à telle date. Pour avoir les fichiers à telle date, il faut que les Japonais nous donnent les fichiers à telle date. Et il faut qu'on ait les contrats signés à telle date. Donc en fait, tout est lié. C'est ce qu'on appelle la chaîne graphique.
À l'origine de toute publication, il y a Meji Benraba, directeur éditorial ici depuis 2015. Il nous accueille dans son bureau rempli de magazines, de figurines d'animés japonais, de posters et évidemment de mangas.
Le catalogue de Pika compte actuellement plus de 1500 titres. Meji Benraba doit faire une veille très active des mangas publiés au Japon pour ne pas manquer une occasion.
Mon boulot, c'est de fouiner dans les magazines que vous voyez là. Ce sont des gros bottins en papier recyclé où il y a tout un tas de magazines qui sont publiés chapitre par chapitre. tout un tas de séries que moi je lis, j'explore, j'analyse pour essayer de trouver le prochain Fairy Tail, le prochain Eden Zero, le prochain Attaque des Titans. Donc des titres majeurs qui pourront plaire au public français.
Le manga L'Attaque des Titans du japonais Hajime Isayama s'est déjà vendu à plus de 100 millions d'exemplaires depuis ses premiers albums en 2009.
Les mangas, la K-pop, le rap, on est totalement dans votre univers d'adolescent, mais quand on vous a demandé de choisir une chanson, il y en a une qui est sortie du lot. Johan, c'est toi qui as suggéré cette chanson? Comment t'as découvert Elvis Presley?
À la télé, hein. Enfin, je pense. Enfin, c'est une musique, d'après que j'ai toujours connue, vu que c'est une musique qu'on peut nommer intemporelle, je pense.
Alors, si toi tu l'écoutes, cette musique, c'est qu'elle te fait quoi?
C'est qu'elle me rend heureux, si on peut dire ça comme ça.
Tu danses dessus?
De temps en temps, je bouge la voix, voilà quoi, ça me dandine un peu.
Elvis Presley, Jailhouse Rock, le choix interclasse des élèves de Saint-Denis, qui vous parle aussi du bonheur questionné par leur Adler.
Pour moi, le bonheur, ce serait pouvoir être indépendante et pouvoir faire du théâtre ou du droit.
Du droit pour faire quoi? Être avocate? Être magistrate?
Avocate plutôt.
Pour défendre?
Oui, je supporte pas l'injustice. Il y a pas longtemps, j'ai lu un livre qui a été fait avec Gisèle Halimi. Ben, ça m'a intéressée.
Alors, on voyait pas très bien la raison d'être au service, nous, les filles qui allions nos chemins plutôt bien, d'être au service de ces garçons, parce que c'était des garçons. Il n'y avait pas d'autre raison à nous opposer.
Une farouche liberté.
Donc, c'est un modèle pour vous, Gisèle Halimi?
Oui.
Elle n'a pas eu une éducation franchement facile, hein, parce que son père ne voulait pas qu'elle travaille. Hein.
Il voulait qu'elle reste à la maison pour les tâches ménagères. Et du coup, à 10 ans, elle a fait une grève de la faim contre ça.
Donc vous n'avez pas besoin de faire de la grève de la faim pour devenir avocate. Votre famille vous comprendra.
Mes parents, ils sont très tolérants et ils sont féministes tous les deux. Donc.
Et donc le théâtre, ça vient d'où, ça, le désir de théâtre?
C'est quand j'étais en primaire, j'ai fait des ateliers de théâtre au TGP. Et en fait, j'étais très
timide.
Alors
le TGP, c'est juste à côté d'ici, c'est le théâtre Gérard Philippe,
oui,
qui est dirigé par une femme.
Et en fait, comme j'étais très timide, enfin, je le suis encore aujourd'hui, mais Mais le théâtre, ça m'a quand même permis de pouvoir parler sans avoir peur, en fait.
Ah, il y a une musique. Au théâtre, oui, vous avez commencé à parler sans avoir peur parce que vous deveniez quelqu'un d'autre.
Oui, du coup, j'avais plus peur du regard des autres, en fait, parce que c'était pas moi réellement qui parlais, c'était le personnage. Et ça m'a quand même beaucoup aidé à travailler sur ma timidité.
Vous irez loin, hein ? Il faut y croire à vos désirs.
On vient d'entendre Leïla. Laura Diane, vous étiez aussi féministe à 14 ans ?
Non, pas vraiment. Je ne savais même pas que le mot existait. Vous, les filles, là, vous avez entendu ce mot-là pour la première fois, quand et à quelle occasion ?
C'est un mot comme un autre qui a toujours été là.
Mais il a bien une signification, non ?
Oui. Quelqu'un qui se bat pour l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est un combat qu'il faut mener et ben, c'est évident.
Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de jeunes qui disent que le boulot a été fait par les mères et les grands-mères.
Non,
vous pas du tout. Vous ne pensez pas, vous ?
Pas du tout. Il y a encore trop d'inégalités. Les inégalités salariales, le fait de se faire agresser dans la rue.
Il y a encore des garçons qui vous enquiquinent parce que vous êtes une fille.
Oui.
Encore aujourd'hui pour vous ?
Oui.
Qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Ils me demandent mon numéro, ils me demandent de m'arrêter. Ils me disent qu'ils vont m'offrir des choses et... Ben, ça me met trop mal à l'aise. Parfois, je prends mon portable et je fais comme si j'appelais quelqu'un parce que j'ai peur.
Vous en parlez à la maison, quand vous rentrez, le soir ?
Ben non, parce que je pense que j'ai fini par m'habituer.
Il faut pas s'habituer, hein ?
Ben justement, c'est anormal de s'habituer à ça. Surtout que, ben moi j'ai 14 ans. J'ai pas à me faire draguer dans la rue par des gens qui ont l'âge de mon père, ou pire, de mon grand-père. C'est pas censé arriver, ça. Ni à moi, ni à toutes mes amies. Donc, il y a toujours des combats à mener.
Vous avez l'impression de n'être qu'un corps, qu'on regarde et qu'on convoite.
Oui. Même en 2021, les gens n'ont toujours pas compris qu'une femme, c'est autre chose qu'un corps. Regardez à la télévision, on ne met en avant que des femmes jeunes, belles, en maillot de bain. Qui a dit qu'une femme âgée n'était pas belle ? Et qu'est-ce qu'elles font, ces femmes ? Elles sourient et elles présentent des produits qui n'ont rien à voir avec elles. Est-ce qu'on est vraiment obligé de mettre en avant des femmes sexy, des femmes belles, des femmes jeunes ? Toutes les femmes existent, non ? Il y a des femmes qui complexent parce qu'elles n'ont pas les critères de beauté. Les critères de beauté, c'est quoi ? Avoir une poitrine imposante, avoir une taille très fine, avoir des hanches très fines, être jeune pour toujours. Ça n'existe pas, ça. Il faut que les gens le comprennent. On ne peut pas avoir ce corps-là, à part si c'est pour débourser des millions d'euros pour avoir du plastique dans le corps. Est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir du plastique dans le corps pour compter ? C'est ça la question qu'il faut se poser.
Mais parlez-nous de l'idéal de beauté tel qu'il est véhiculé à votre âge sur les réseaux sociaux.
Alors, pourquoi est-ce que les critères sont pédophiles ? Être petite, ne pas avoir de poils, être fine, petite main, petit pied, pas de rides. Est-ce que c'est normal, ça ? Une fille comme ça, je suis désolée, elle a 11, 12 ans, c'est pas normal. Est-ce qu'on en est arrivé à là ? C'est lourd d'être draguée dans la rue quand on a 12, 13, 14 ans. La première fois, ça vous choque. Et à 14 ans, vous êtes habituée à être draguée par des gens qui ont l'âge de votre père. Une femme, maintenant, quand elle sort, elle fait attention à tous les détails qu'il y a sur elle. Est-ce que je suis trop grosse ? Est-ce que j'ai des poils ? Est-ce que j'ai ci ? Est-ce que j'ai ça ? Est-ce que les hommes font pareil, eux ? En fait, on les déshumanise comme ça.
Et vous, vous vous sentez féministe ?
Bah, moi, il y a quelques années, je ne savais même pas ce que c'était le féminisme. Je l'ai toujours été en soi, mais je trouve que le féminisme, ça devrait pas avoir de nom. Parce que ça devrait être naturel de l'être, d'avoir égalité homme-femme. Pourquoi on devrait avoir peur quand on sort qu'un homme nous agresse parce que, d'après lui, on s'habillait comme une putain ?
Et les garçons, qu'est-ce qu'ils en pensent du féminisme ?
je soutiens la cause, mais je trouve que Camila a beaucoup trop globalisé. Parce que c'est pas tout le monde qui est comme ça, c'est pas tous les hommes qui sont comme ça, c'est pas toutes les femmes qui sont comme ça non plus.
Non mais...
Vas-y, vas-y.
Je suis pas totalement d'accord avec toi, parce que on globalise pas les choses. Peut-être tu te sens un peu quand même concernée, mais c'est aussi parce que parfois, pas tous les hommes, mais certains, ou même des filles, font des remarques sur le corps. On ne doit pas avoir de bourrelet ni de grosseur. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, bah, on se complexe beaucoup trop.
Mais après, le féminisme, c'est pas que le corps. C'est y a l'inégalité du salaire. Faut pas généraliser, il y a des hommes qui sont féministes d'ailleurs plus que certaines femmes, qui soutiennent la cause. Voilà quoi, c'est pas tous les mêmes.
On vient de parler idéal de beauté, critères de beauté et même Photoshop. Il y a un monde quand même qui vous fascine, c'est celui des influenceurs. Ilef, Mélissa, Adam, Nawal et Jessly ont rencontré des influenceurs avec Lola Fourmi.
Salut les auditeurs d'Inter, c'est Ilef. Non, je rigole, je suis pas influenceuse, mais nous avons décidé de vous parler de ça parce que c'est un sujet qui nous intéresse et qui concerne notre génération.
Mais qu'est-ce qu'un influenceur? Selon le dictionnaire Le Robert, c'est une personne qui influence l'opinion, la consommation par son audience sur les réseaux sociaux. Pour ça, ils utilisent des vidéos, des photos ou des posts. On les appelle aussi les créateurs de contenu. Il serait 150 000 influenceurs en France, ce qui est énorme.
Aujourd'hui, nous venons d'arriver devant les locaux de Follow, une agence d'influenceurs à Paris. Et nous avons rendez-vous avec le directeur Ruben Cohen pour essayer d'en savoir plus sur l'envers du décor du monde de l'influence.
En fait, ça veut dire, est-ce que quand tu vas, je sais pas, quand t'es avec ta famille, quand t'es avec tes parents, ou quand tu vas faire tes courses à la rentrée scolaire, ou quand tu vas acheter un sweat, ou quand, est-ce que à un moment donné dans ta tête, tu vas avoir les images de ce que t'as vu ou pas?
Des fois, je pense qu'on peut pas appeler ça de l'influence parce que ça va pas au-delà de l'influence. Par exemple, Michou, on va dire, il va porter une paire de chaussures. Il va pas dire allez la porter, lui va pas faire ça passer ça comme ça.
Mais c'est pas grave.
Oui, voilà.
Il faut que tu saches que ça, c'est aussi de l'influence.
Oui, voilà.
L'influence, ça a commencé avec les codes promo un peu agressifs, tu sais, beaucoup de télé-réalité. Tenez, allez acheter ce truc-là, allez-y tout de suite. En fait, l'influence a changé au fil du temps et c'est devenu beaucoup plus que ce que tu as dit. En fait, si tu veux, c'est nous, on va travailler avec Lacoste ou Puma, par exemple. Paola est ambassadrice de chez Puma. Dans la manière de faire à l'année, Paola, on va lui dire juste mets tes baskets. Et en fait, les gens, quand ils vont te voir avec ces baskets, comme on va faire en sorte que tu les portes bien, mais c'est normal, c'est de l'influence, ça va me donner envie de l'acheter parce qu'il l'a bien porté. Sans forcément qu'ils me disent tu as vu mon t-shirt. Alors après, c'est bien que je sache d'où il vient parce que si je vois Paola et je vois qu'elle a une paire de baskets mais je ne connais pas la marque, j'arrive pas à l'identifier comme le t-shirt, bah, je vais pas pouvoir l'acheter. Donc ça, c'est problématique pour nous qui sommes derrière en fait. Tous les influenceurs qu'on a aujourd'hui, et on parle beaucoup dans le marketing, on parle beaucoup de famille, etc. Et on essaye de l'appliquer au quotidien. Donc en fait, tous les influenceurs, c'est nos petits frères, nos petites sœurs, et on essaye de les aider parce qu'ils n'ont pas vraiment de repères. Je ne sais pas si vous, vos parents, par exemple, connaissent ce monde-là, mais les parents de Maya, les parents de Paola, c'était allé trop loin pour eux. Donc ils ne pouvaient pas l'aider. Et nous, on était là pour les encadrer, pour faire en sorte que ils soient encadrés juridiquement, avec une loi, avec quelque chose qui fait que ils font les choses en bonne et due forme.
Est-ce qu'ils ont tous des contrats à CDI avec vous?
Alors non, surtout pas. Le CDI, c'est une très bonne question. CDI, ça voudrait dire qu'on est leur patron et que sont nos salariés. C'est surtout pas ça. Eux, en fait, c'est nos partenaires, en fait. Voilà. Donc il n'y a pas de relation de travail, de patron, de salarié avec nos influenceurs.
Comment vous les sélectionnez? Est-ce que ça dépend de la personnalité, du nombre d'abonnés, etc.?
Alors oui, du nombre d'abonnés, mais pas que, surtout pas. Nous, on a recruté des influenceurs qui avaient 60K followers, c'est pas beaucoup aujourd'hui, tu vois. Et c'est les valeurs, c'est l'envie, le sérieux.
C'est quoi le salaire moyen d'un influenceur?
1 million d'euros
moyen
par mois, ouais. Non, non, je rigole. Il a dit moyen. Il s'est arrêté sur moyen. Comme je vous l'ai dit, c'est pas des CDI, c'est-à-dire que c'est pas des salariés, donc ils ont pas de salaire. On a beau dire tout ce qu'on veut sur les influenceurs, mais du coup, il y a un influenceur qui peut gagner 0 euros sur un mois et gagner 3000 euros le mois d'après, et après gagner 1000 euros et après gagner 5000 euros. En fait, c'est très très variable. Ça va dépendre du travail qui sera effectué, ça va dépendre du nombre de campagnes sur lesquelles il aura travaillé. Vous vous doutez bien que plus l'influenceur est important et connu, plus il gagnera bien sa vie. Tu parlais d'un Michaud tout à l'heure, Michaud gagne bien sa vie.
Merci beaucoup.
Merci
à vous. Bravo, hein, continuez.
C'est très intéressant.
Ouais, c'est super intéressant.
Donc tu pourrais être influenceur?
Oui, oui, oui.
C'est ça que tu veux faire dans ta vie?
Non, c'est optionnel. L'influence, les réseaux sociaux, c'est juste à côté. Si un jour ou l'autre j'ai un bad buzz, plus personne me suit, ni rien du tout, ben moi je suis comment, ça y est, je finis à la rue sans rien du tout. Faut toujours garder une roue de secours, faut faire quelques études pour au moins trouver un travail en cas de bad buzz.
Mais est-ce que tu trouves que ça a du sens, ce qu'ils font, de te filmer comme tu dis au réveil
Ça n'a aucun sens, je trouve ça débile, mais ils ont réussi leur vie. Donc même si c'est débile, eux à la fin ils dorment bien, ils mangent bien. Dis-toi, eux ils dorment, ils encaissent.
Oui, mais en fait, ça pose. C'est quoi la question derrière tout ça?
C'est l'argent, c'est l'argent. Si on se pose la question, les gens ils veulent devenir influenceurs pas parce qu'ils veulent partager leur vie ou quoi, ils veulent juste gagner de l'argent. Parce que si vraiment quelqu'un voulait gagner, voulait vraiment juste partager ses opinions, etc., ils feront pas de partenariat, ni de publicité, ni rien du tout. En conclusion, on peut dire que c'est grâce à l'argent qu'ils sont attirés par ce domaine.
Steady calling my phone. I done told you before that it's over. Leave me alone. No, it's hurting you to see me gone. Dark clouds, you gon' see me storm. I won't go back. But trust me, you gon' hold that. Hold that. Tryna play these games no more. I don't wanna be touching your name no more. I ain't tryna feel this pain no more. And I'm sorry but my feelings ain't the same no more. Used to be my homie, you ain't gang no more. I am not a nigga you could claim no more. Traumatized, hoping it don't rain no more. You done put me through some things that done changed my aura. Now all around the world I explore no Dora. New bitch, I'ma drip out of New York. Ass fat, shirty straight, heat no Florida. Bad and she do it for herself, I applaud her. No need, yeah, I'm talking my boo. So please, leave me alone, I grew. And it's all cause what you started. I've been told you I'm gonna steady calling my phone. I done told you before that it's over. Leave me alone. No, it's hurting you to see me gone. Dark clouds, you gon' see me storm. I won't go back. But trust me, you gon' hold that. Hold that.
I'm one of a kind, couldn't fake my love. Earthquake makes some shake my love. Most don't can't even relate my love. Used to be gang, oh now you're not gang. Used to have fun, oh now you got shame. Used to catch flights, but now I'm not playing. Play on words, you love it when a nigga say. I ain't tryna play your game no more. No, you can't wear my chain no more. We ain't not a thing, can't take no more. Waiting on your king, you could wait some more. Yeah, I remember days when I used to adore her. Funny how this shit just flipped like a quarter. Get a new thing, I'm a Fendi and Diora. Get a mood swing, I'll be gone by tomorrow.
Steady calling my phone. I done told you before that it's over. Leave me alone. No, it's hurting you to see me gone. Dark clouds, you gon' see me storm. I won't go back. But trust me, you gon' hold that. Hold that.
Le dernier reportage nous amène dans un autre monde et on va partir avec vous, Fanny Lechevestrier. Vous êtes de la direction des sports de Radio France. Où est-ce que vous avez emmené votre groupe?
Eh bien, on est allé à la découverte de Station F. C'est un lieu complètement étonnant que vont vous décrire Patricia, Johan, Brandon et Dolmedji. C'est avec eux qu'on est allé voir et découvrir Station F dans le 13e arrondissement de Paris. Un lieu où il y a une véritable pépinière de start-up. immense. On nous a comparé
ça. Vous avez beaucoup marché, hein.
On a beaucoup marché et on nous a comparé ça, pour vous donner un ordre de grandeur, à la Tour Eiffel couchée.
Et ça ressemble à quoi alors, Station F?
Ben, on va demander à Patricia peut-être, qui a été la première impressionnée déjà par les lieux, par le design.
Alors Station F, c'était une station de métro. Et dans Station F, on a un restaurant. Dans ce restaurant, en fait, on a des wagons qui sont des anciens wagons de la station de métro.
C'est tout ce qui vous a impressionné ?
Non, aussi le design de Station F et les toilettes qui sont...
Comme une maison de chasseurs, si on peut dire ça, où il y avait une tête de cerf et c'était tout en fourrure derrière. C'était assez atypique comme toilette, si on peut dire ça.
Joanne, c'est toi qui voulais aller découvrir tout particulièrement Station F. C'est toi qui nous as dit, quand on a cherché des idées de reportage, tu nous as dit « Ah, moi, je voudrais aller découvrir ce lieu. Pourquoi ?»
J'en avais entendu parler à la télé et dans des vidéos, et j'ai voulu en savoir un peu plus.
Est-ce que vous vous êtes dit que ça pouvait vous donner des envies de créer aussi votre propre entreprise, de devenir entrepreneur ?
Ça m'a donné des idées. Enfin, j'ai aussi vu que on peut créer une start-up sous un coup de tête comme ça. Donc il faut pas se mettre des barrières devant pour créer une société et tout ça.
Et vous pensez que c'est accessible à vous, jeune de Saint-Denis ?
Oui, tout à fait, je pense que c'est accessible. On peut tout créer, quoi. C'est un monde ouvert, plein d'imagination, qu'on peut explorer plein d'endroits différents. C'est impressionnant, quoi, quand tu vois ça.
Et on va écouter votre reportage, je suppose qu'on vous a donné quelques conseils.
Déjà, bienvenue à Station F. Donc en fait, ici, on est dans un bâtiment qui accueille 1000 startups qui, pour la plupart, viennent d'être créées. Et nous, en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est leur apporter tous les outils nécessaires à se développer, à grandir. Et je vais vous emmener faire un petit tour à la Felicita. Donc voilà, là, c'est l'endroit où on a le droit de faire du bruit.
Ça me fait penser à du Mandy.
Ça, c'est stylé.
On va aller dans une salle qui s'appelle la Creativity Room. Et on va retrouver Antoine qui va un peu vous parler de son parcours entrepreneurial.
Hop !
Bah Antoine, je vais te laisser te présenter.
Ok, ça marche. Donc bonjour à tous. Moi c'est Antoine Pinault, fils d'agriculteur dans le Maine-et-Loire. Et donc dès l'âge de 15 ans, je m'occupais des animaux sur la ferme familiale. Et je me suis dit à un moment, oh punaise, pourquoi en fait papa il n'arrive pas à vivre de son métier décemment ? Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de monter ma boîte pour qu'il puisse valoriser en fait sa viande du producteur au consommateur. Et donc en 2017, j'ai créé la société Chez vos producteurs et on livre notre viande dans toute la France.
Comment Station F vous aide ?
J'ai suivi un cursus dans l'agriculture, l'agronomie. Et donc depuis que je suis arrivé là, ça a pris une belle ampleur parce qu'il y a tout un réseau en fait à Station F qui nous permet de nous aider, échanger sur certaines problématiques aussi qu'on peut rencontrer en tant qu'entrepreneur. Et c'est comme ça que ça m'a permis d'accroître mes chiffres et d'accroître ma visibilité aussi grâce au réseau.
À partir de quelle année votre entreprise s'est développée de plus en plus ? Ça a eu plus de personnes qui ont commencé à acheter ?
Surtout l'année dernière en fait, 2020. Ça a été une explosion des commandes, notamment à cause ou grâce à la pandémie, en fait. Ça a attiré de nombreuses personnes sur le site internet et ce qui a fait exploser le site. 4000 clients dans toute la France.
Est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés à vendre votre produit ?
Ouais, c'est surtout au début, en fait. La question, c'était comment se faire connaître. Parce que c'est très beau d'avoir un site internet. Moi, je pensais, j'étais assez naïf, on a un site internet, c'est bon, c'est une super idée du producteur au consommateur. Et ça va se développer tout seul. Mais ça ne marche pas comme ça. J'ai donné des tracts et j'étais dans le métro, viande de qualité du producteur au consommateur. Donc j'en donnais plein, mais au final, le lendemain, il n'y avait toujours pas de commande. Donc j'ai dû me former, en fait. Le nerf de la guerre, c'est se former.
Est-ce que vous comptez faire que de la viande ou un jour changer de produit ?
Pour le moment, l'idée, c'est de rester spécialisé sur la viande. Je pense que c'est important pour le développement de l'entreprise. Pas s'éparpiller, parce qu'autrement, le message n'est pas assez clair.
Que diriez-vous aux personnes qui ont peur de développer leur entreprise par peur de ne pas réussir ou...
Faut y aller, hein. Si vous avez des idées, faut tester, je pense. Surtout quand on est jeune, en fait. Allez-y, foncez. Et puis, si ça fonctionne, je continue. Puis si, ça fonctionne pas, vous aurez testé, vous serez fier de vous, vous aurez appris plein de choses. Mais voilà, se lancer, se former, et puis allez-y.
Sur le thème du bonheur. J'ai eu du bonheur, j'ai eu du malheur, j'ai eu un petit peu de tout dans ma vie. Ça ne peut pas être autrement, hein. Il faut bien partager un peu.
Pourquoi vous êtes malheureux, monsieur ?
Parce que je suis trop vieux.
Et vous pensez... N'ayez pas peur, c'est le micro.
C'est un micro. Oui.
Et vous, mademoiselle ?
Moi aussi, bien sûr. Nous sommes jeunes et il fait beau.
Laura Adler, on a entendu les élèves de 3e C parler du bonheur. On sent qu'ils ne s'autorisent pas à être heureux.
Mais c'est difficile. Je trouve personnellement que cette période que nous avons traversée n'est pas forcément une période très heureuse. Les jeunes ont été les principales victimes des conséquences collatérales dont on ne parle pas encore beaucoup de cette pandémie, mais ces conséquences sont bien là dans l'ensemble de la société. Et les jeunes n'ont pas été pris en charge. On sait bien que dans les familles, c'était très compliqué de prendre en charge la vie individuelle d'adolescents qui, par définition, doivent avoir leur bulle de vie, leur solitude qui est nécessaire pour réfléchir à leur avenir. Ce qui m'interpelle, moi, dans la parole de ces adolescents, c'est que nous sommes un pays où, comme tous les autres pays, nous avons véritablement, urgemment besoin des jeunes, mais nous ne les accueillons pas. Nous faisons comme si nous n'avons pas besoin d'eux.
Et on va les écouter une dernière fois avec vous.
Le bonheur, c'est une sensation et la joie, c'est une émotion.
Chacun sa conception du bonheur.
Donc, alors la vôtre ?
Il suffit juste de rire.
Ah bah c'est beaucoup ça !
Comme je ris tout le temps, je suis tout le temps content.
C'est super ça ! Vous riez tout le temps ?
Oui.
Et vous riez de quoi ? Parce que vous êtes heureux ?
Bah, juste rire, c'est bon pour le moral.
Ça a été ah oui, c'est super, mais c'est pas facile de rire. Il y a des gens qui rient jamais. Hein.
Ça, c'est ce qu'on appelle des dépressifs.
Ah !
C'est pas bien.
Mais vous riez de tout ?
Bah, de tout, oui.
Donc vous riez même quand c'est pas drôle ?
Bah oui. Pourquoi je rirais pas ?
C'est une question philosophique, oui. Mais tout le monde ne sait pas rire et tout le monde ne veut pas rire. Donc je reviens à la définition du bonheur.
Le bonheur, c'est souvent sur une longue durée.
Est-ce que vous avez déjà éprouvé ces moments de plage de bonheur ? Pas encore. Vous savez bien en parler, mais vous attendez que ça arrive.
Moi, je préfère ne pas être surpris par quelque chose et me préparer d'avance.
Même au bonheur ?
Oui.
Mais comment on se prépare au bonheur ?
J'étudie qu'est-ce qui peut déclencher ça, qu'est-ce que ça fait, vers quel âge.
Vous voulez pas être surpris par vos émotions ?
Non.
Pourquoi ?
Parce que j'aime pas être surpris, c'est tout.
Bah, si le bonheur vous tombe dessus, c'est pas mal, non ? Pas besoin de se préparer.
C'est juste comme ça, dans mon caractère. Et j'aime pas spécialement être surpris.
Pour moi, le bonheur, ça peut être un bouclier. Ça veut dire que, par exemple, si on se sent pas bien, bah, on fait exprès de montrer aux autres qu'on se sent bien. Aussi, c'est un but dans la vie. Je pense que c'est un rêve pour tout le monde et on a besoin de ça au quotidien.
Mais il faut d'abord être heureux soi-même pour partager ce bonheur avec d'autres.
Le partager, peut-être, si on n'est pas heureux nous-mêmes, c'est un peu compliqué. On pourra pas comprendre les autres. Personnellement, j'ai peur de donner ma tristesse aux gens. C'est pour ça que je le montre pas forcément.
Et là, dans la minute, là, la seconde où vous parlez, vous êtes triste ou vous êtes heureuse ?
Heureuse.
C'était Interclasse avec le collège Pierre de Jeter à Saint-Denis. Une émission animée par Mathilde Dehémy et Laure Adler. Réalisée par Lilian Alloum. Production et rédaction en chef Éric Vanmire. Prise de son Victor Ouvrard.